Samedi 29 juin à Colomiers, fête citoyenne et solidaire au Val d'Aran.
Et bonjour à tous, donc sur cette place du Val d'Aran où le soleil commence à se lever, enfin, on se présente rapidement. On est donc la radio des maisons citoyennes de Colomiers et sur ce plateau, nous sommes entourés des jeunes qui vont poser des questions aux associations. Steven.
Bonjour.
Oussama.
Bonjour.
Et les associations qui sont avec nous, on a donc Joël pour ADVO.
Bonjour.
Philippe pour Enfants du Mékong.
Bonjour.
Yolande avec les Routes de l'Ain.
Bonjour.
Et enfin.
Et Djilali pour Solidarité Jeunesse Internationale.
Bonjour à tous et merci d'être autour de ce plateau. On va commencer par la présentation des associations très rapidement, honneur aux dames.
Alors, les Routes de l'Inde, c'est une association qui s'occupe de voyages solidaires et de parrainage d'enfants.
Jeunesse internationale.
Solidarité et jeunesse internationale favorise l'accès aux soins pour des enfants du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, des gamins qui ont de grosses pathologies qui ne peuvent pas être traitées dans leur pays.
Enfants du Mékong.
Oui, Philippe Landau, enfants du Mékong. Notre association s'occupe de parrainer des enfants défavorisés en Asie du Sud-Est pour les scolariser.
Et enfin ADVO, c'est l'association pour le développement des villages d'Ushagram, c'est en Inde, au Bengale occidental. Et donc l'association aide à un projet de développement en milieu rural pour un ensemble de villages de 40 000 habitants.
Principalement, ADVO, ça sert à quoi?
Alors ça sert à quoi? Ça sert à apporter des financements pour aider au développement d'un village qui, il y a à peu près une quarantaine d'années, étaient des villages qui étaient, on peut dire, dans une misère totale. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait aucune activité. Et les gens vivaient en partie soit de banditisme, soit ils se réfugiaient en ville à Calcutta pour essayer de trouver du travail. Et donc, quelqu'un, c'est un Indien, a eu l'idée d'organiser un développement sur place de ces villages. Et l'association aide, apporte des aides financières pour faciliter ce développement.
Et il y a beaucoup d'écoles maintenant?
Maintenant, il y a beaucoup d'écoles. Il y a une école centrale au centre du village où il y a 800 enfants. Et puis, comme c'est, je disais, c'est un ensemble de villages, il y a 15 villages. Donc, dans chacun des villages, il y a une école qui scolarise les enfants, en gros, de 3 ans à 6 ans. Et l'école centrale correspond à peu près à notre école primaire et à notre collège.
Comment vous faites pour les aider? Vous faites quoi principalement?
Eh bien, de plusieurs façons. Une première façon consiste à apporter de l'argent pour construire l'école qui était construite, pour construire des dispensaires. Et puis également, cet argent, on l'obtient par la vente d'artisanat indien et on ne peut que vous inviter à passer nous voir à côté pour apporter votre petite contribution en achetant de l'artisanat indien de qualité et pas très cher. Et puis par ailleurs, donc il y a un système de parrainage pour des enfants aussi, pour un pensionnat, pour permettre à ces enfants de pouvoir aller à l'école sans être obligés de rentrer chez eux le soir, sans quoi ils pourraient pas aller à l'école.
Ça se situe où le Mékong?
Alors le Mékong, c'est un grand fleuve qui fait 4800 km de long, qui prend naissance au sud de la Chine, qui traverse la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Voilà, c'est donc dans ces pays que nous travaillons.
Et pourquoi dans ces trois pays?
Pourquoi dans ces pays? Ben parce que le fondateur de notre association, c'était il y a plus de 50 ans, habitait au Laos, donc dans l'un de ces pays, et il a vu que il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas du tout à l'école, et il a dit bon, moi je vais essayer de faire en sorte que beaucoup d'enfants aillent à l'école grâce à cette association que je crée.
Vous aidez combien d'enfants au résultat?
Alors, au résultat, aujourd'hui, c'est samedi, mais hier, on avait 22 000 enfants qui vont à l'école grâce à leurs parrains, puisque l'on travaille par parrainage. Ces enfants, jusqu'à ce qu'on s'en occupe, n'allaient pas à l'école. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient travailler dans les rizières, dans les champs, où ils faisaient des choses pas tout à fait normales pour des enfants, dans les villes, etc. Voilà, donc c'est 22 000 enfants que l'on aide aujourd'hui, et on a beaucoup d'enfants en attente pour pouvoir aller à l'école, et donc beaucoup d'enfants pour lesquels on aimerait bien trouver à Colomiers, à Toulouse ou ailleurs, un parrain ou une marraine.
Et c'est maternelle, primaire et collège.
On suit tous les enfants, qu'ils aillent à l'école, au collège, au lycée ou en faculté.
Mais leur scolarité, ça dure combien de temps ?
Autant de temps qu'ils veulent aller à l'école. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à parrainer un enfant, eh bien on lui dit, tu vas à l'école tant que tu veux. Si il ne va plus à l'école, à ce moment-là, on arrête le parrainage.
D'accord. Et c'est des écoles publiques ou bien privées ?
Publiques.
D'accord.
C'est toujours des écoles publiques. Nous, on essaie d'aider les enfants dans leur milieu naturel. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, on va le scolariser dans son village ou près de son village et dans l'école de son village. Là-bas, il est rare qu'il y ait des écoles privées.
Vous parlez du parrainage. Quelles sont les actions de ces parrains, précisément ?
Alors, le parrainage, c'est un soutien financier et un soutien affectif. Un soutien financier, puisque il y a une somme à verser tous les mois, qui est de 24 euros, qui est défiscalisable à 75%. Mais c'est aussi un soutien affectif, en ce sens qu'il se crée une correspondance entre le parrain ou la marraine et le filleul ou la filleule. Correspondance qui est bien entendu traduite par nos soins dans des centres de traduction.
D'accord. Et je veux dire, il y a des selfs ou bien c'est des cantines ou bien ils mangent chez eux ?
Alors, la scolarité dans ces pays-là n'est pas tout à fait comme la nôtre. En ce sens qu'il n'y a pas assez d'écoles, eh bien les enfants ne vont à l'école que le matin ou l'après-midi. C'est-à-dire que les salles de classe servent le matin pour certains enfants et l'après-midi pour d'autres. Donc à midi, en principe, ils sont chez eux. Mais on a également des foyers où l'enfant est scolarisé, où on garde l'enfant toute la journée, et à ce moment-là, on le nourrit dans nos foyers.
Et en tout, ça coûte combien pour faire une école avec le matériel ?
Alors, une école, on en construit beaucoup, au Cambodge en particulier. Une école de 6 classes, ça coûte environ 30 000 euros. Ça revient à 30 000 euros, ce qui n'est pas cher par rapport à nos prix à nous. Mais enfin, ce n'est pas non plus les mêmes types de construction, d'installation, etc. Et en général, on construit l'école et des blocs sanitaires à côté, chose qui jusque-là n'existait pas.
Et ils étudient les matières principales ou bien c'est un jour art plastique, par exemple, après mathématiques, français ?
Non, là c'est comme en France, hein, ils étudient toutes les matières de leur programme, puisque dans chaque pays il y a un programme avec la langue du pays, avec l'anglais souvent, avec les maths bien sûr, etc., etc.
Vous avez dit donc c'était une association créée par quelqu'un venant du Mékong. Comment le réseau s'est développé tout autour de cette personne ?
Alors au départ, c'était il y a plus de 50 ans, donc c'était dans une autre période. Ce monsieur, bon, au moment des révolutions qui se sont déroulées là-bas, il a été chassé de ce pays, puisqu'il était étranger. Et ensuite, on s'est occupé des enfants qui étaient dans les camps de réfugiés de Thaïlande. Et ensuite, on a fait venir des enfants en France. Et puis, on a décidé et réussi, parce que dans les pays, ça s'était pacifié, eh bien, d'aider les enfants sur place pour qu'ils grandissent dans leur village, pour qu'ils étudient dans leur village et pour qu'ils se créent une situation dans leur pays.
Et ils finissent à quel âge la scolarité ?
La scolarité, c'est très variable. Il n'y a pas de scolarité, obligatoire. Les enfants commencent souvent à la maternelle ou un petit peu après. Et ils vont à l'école, le collège, le lycée, les études supérieures si nécessaire. Mais enfin, il y en a beaucoup qui arrêtent après le collège. Après le collège, parce que arrivés à 15-16 ans, eh bien, ils vont travailler dans les champs ou travailler en ville pour ramasser un petit peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille.
On va passer à Jeunesse sans frontières.
Solidarité Jeunesse Internationale.
Pardon, excusez-moi. Solidarité Jeunesse Internationale. Quelles sont les actions de l'association? Comment est-ce que vous arrivez à gérer toute cette grosse plateforme, parce que c'est quand même international?
Alors, elle est située sur le quartier de la Faourette, en côté de Bagatelle, au Grand Mireille. Et elle est née spontanément d'une mission, on va dire, éducative, à la base, entre le Burkina Faso, le Mali et l'Algérie, où il fallait amener des équipements sportifs. Et un jour, on nous a ramené un dossier médical pour traiter une tumeur faciale. On a retroussé les manches et on a pu faire venir une jeune fille donc atteinte de cette maladie. Et depuis, ça va faire 10 ans qu'on fait venir des gens qui sont atteints de grosses pathologies, ne pouvant pas se faire soigner dans leur pays, n'ayant ni les moyens financiers, ni matériels, ni techniques, et encore moins humains. Voilà. Et le but, c'est justement d'éduquer la jeunesse notamment à être solidaire.
À quoi ça sert à quoi ça sert?
C'est tout simplement, à un moment donné, quand tu vis dans un pays occidental, en l'occurrence en France, où tu as accès aux soins, à l'éducation, à l'école, aux loisirs, à tout, et qu'à 1h30 d'avion d'ici, tu as des enfants qui meurent en silence. Faute de soins, faute de médicaments, faute de tout. Voilà. Et à un moment donné, quand tu vas là-bas, tu prends conscience qu'à un moment donné, il faut réagir. Et le but, c'est non seulement tu réagis de par des actions, comme là, nous avons un stand où il y a pas mal d'informations qui circulent. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter les autres informations qui sont l'administration et comment on fait venir sur le plan médical. Et de l'autre côté, c'est qu'à un moment donné, les gens qui veulent œuvrer, on se doit de les accompagner pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils sont capables de faire des choses intéressantes et à un moment donné, d'éduquer les enfants à prendre conscience qu'ils peuvent être solidaires aussi. En tout cas, ils peuvent engager des actions.
Vous recrutez environ combien de personnes?
On recrute pas. C'est au bon vouloir des gens. Nous, on expose. Si une personne nous dit « j'ai une idée, j'ai envie d'eux », on se met à sa disposition et on fait en sorte à ce que la personne vit son expérience de vie le plus humain possible, le plus réaliste possible. Donc elle va sur le terrain.
D'accord.
La santé, on sait que ça coûte quand même super cher. Comment est-ce que vous arrivez à trouver tous les moyens financiers?
Alors, au plus bas de l'échelle, on a sur le stand les bracelets solidaires, des petits bracelets qui ont pour phrase un geste de solidarité avec le site internet, des stylos solidaires, des sambons de voiture à l'effigie de l'équipe d'Algérie ou du Maroc, puisque la plupart de ces gamins viennent de ces pays-là, et certains d'Afrique de l'Ouest. Mais en général, c'est surtout le site internet. Quand les gens nous interpellent parce que le bouche à oreille fonctionne, donc on reçoit des emails de cas, à un moment donné, 10 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on a plus de 250 personnes inscrites par email qui, à un moment donné, vont œuvrer, c'est-à-dire on leur envoie un document d'une enfant pour laquelle on se mobilise, à eux de sortir ce document, de le multiplier par je ne sais combien de tracts et qui va noyer leur réseau à eux. Donc, de par réseau, comme ça, les gens sont informés, ce qui fait qu'on arrive, tant bien que mal, à récolter des sommes qui vont de 10 000 à 20 000 euros pour un accès aux soins.
À l'heure d'aujourd'hui, vous avez pu traiter combien de cas?
On les compte pas, on n'est pas sur des statistiques. Nous, c'est sur la faisabilité. Ça veut dire que si depuis 10 ans, on aurait, réussi qu'à faire venir un cas et que depuis, on aurait galéré, on aurait arrêté. Ça aurait été simple. Non, effectivement, chaque année, ça marche. Chaque année, il y a des gamins qui viennent se faire soigner, d'autres qui vont dans d'autres pays ou d'autres qui reçoivent les médicaments nécessaires dans son pays. Voilà, qui sont complémentaires à l'intervention. Voilà. Et de ce fait, voilà, on s'aperçoit que le site, quand on y va, on se pose la question, nous avons traité déjà tout ça. Voilà, c'est un regard à un moment donné très global qui fait qu'à un moment donné, on s'inscrit dans cette réalité.
Et vous les faites dans quel pays?
Alors, c'est surtout la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. En grosse partie, l'Algérie, parce que c'est une histoire de cœur au départ, et il faut bien commencer par un pays. Et après, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest aussi. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, alors il y a un contraste entre les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'Afrique de l'Ouest, ils ont les intervenants spécialisés, mais n'ont pas les fonds. Alors qu'en Algérie, il y a les fonds, on leur donne pas, ils n'ont pas les spécialistes, donc ils sont doublement pénalisés. Donc tu vois, c'est un peu ambigu.
Et pourquoi vous avez choisi ces pays et pas d'autres?
Ah non, on a rien choisi du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous a donné un dossier d'une jeune fille qui avait une tumeur à la figure. Nous, on s'est regardé, on a fait une réunion, comme là, en ce moment, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fonce ou on laisse tomber? On est lâche ou on va vivre une belle aventure? Et c'est grâce à elle que maintenant, depuis 10 ans, des enfants se font soigner.
D'accord. Et donc, en fait, c'est un peu celle qui a créé l'association?
Qui nous a donné envie. Non, l'association existait sur le volet social, puisqu'on est responsable associatif, on mène des actions de socialisation. Ça ne met rien, on fait du théâtre, du football et plein d'autres choses, on joue pour les Restos du Cœur, puisqu'on parle de solidarité. Mais voilà, un jour on a voulu faire une action humanitaire, mais matérielle, sur 3 pays, Et c'est elle qui nous, voilà, qui a réussi à nous ouvrir les yeux sur d'autres cas. 10 ans plus tard, ben voilà, on touche l'humanitaire et le social.
D'accord, et vous êtes heureux de ce que vous faites depuis le début ?
C'est pas que je suis heureux, c'est que je revis. Là où je suis écœuré un petit peu de la, du volet social qui est complètement pipé, faussé, hein, quand t'as des décideurs qui viennent en costard-cravate dans ton quartier, qui restent même pas 2 minutes, et qui te disent « j'ai tout compris », ben c'est l'humanitaire qui va te rapporter ce sourire, parce qu'eux, ils ont tout à, ils ont plus rien à perdre.
D'accord, et tous les médicaments, et enfin pour se soigner et tout, vous les trouvez de quel laboratoire ?
Alors, il y a le laboratoire, par exemple, Stallergène à Paris, hein, donc on envoie l'ordonnance. Il y a la pharmacie qu'il y a à l'hôpital des enfants,
d'accord,
aussi, à Toulouse, à l'hôpital des enfants de Purpan. Et il y a surtout, à un moment donné, ben, nos pharmacies à nous, qui acceptent les ordonnances de tout pays, et qui nous aident aussi, parce que des fois, quand on n'a pas les fonds, parce que ces ordonnances-là, il n'y a pas de prise en charge. Donc tu payes plein pot. Donc il y a des pharmaciens qui, des fois, nous disent « prends les médicaments, tu nous payeras plus tard ». Donc ils font leur partie humanitaire aussi. Ils y contribuent.
Et c'est laquelle la maladie qui vient le plus souvent ? Enfin, c'est des tumeurs qui est le plus répandu ?
Alors, je t'invite à venir sur le stand et je vais te faire voir un cas de lymphologie on nous a traité de menteurs, de voleurs, parce que cette photo était truquée. Alors qu'on est allé chez lui, on a bien touché sa jambe malade. Et il est venu, sa jambe avait explosé, donc il l'a amputé. Et il est venu à Toulouse pour se faire mettre une prothèse. Et maintenant, il remarche.
Est-ce que vous êtes bénévole ou on vous paye ?
Non, bénévole. Ça, c'est sur mon temps de loisir personnel.
Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce temps très investi de bénévolat en tant que votre vie privée ?
Ça fait 23 ans que je suis acteur associatif sur le Mirail. Donc, à un moment donné, quand j'ai creusé, on va dire, le volet social au départ, je l'ai fait à ma manière. Donc, moi, par exemple, je fais 80% de travail de rue. Donc, j'interpelle les gamins là où ils sont. Et après, je suis et une force de proposition et une source de proposition. Donc, si le gamin n'a pas d'idée, on va lui en fournir. Le tout, c'est qu'il soit acteur et mobile après. Et qu'il aille voir ailleurs ce qui se passe. Et l'humanitaire se rejoint. L'humanitaire se rejoint, pourquoi ? Parce qu'il faut réfléchir, il faut positionner, il faut mettre des actions en place pour récolter les fonds et y aller sur le terrain. Donc, ça peut préparer.
D'accord. Et
Il est toujours d'accord.
D'accord.
C'est super.
Et vous êtes déjà allé en Algérie pour voir l'association ?
Au moins 10 fois.
D'accord.
Et pas tout seul, accompagné. Avec des gens qui ne sont pas algériens, qui ne sont même pas d'origine algérienne, mais qui avaient envie de faire de l'humanitaire.
Qui c'est qui a créé l'association ?
Ben c'est nous. Nous, puisqu'on habite sur le Mirail, et qu'à un moment donné, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus pour justement réveiller la jeunesse à prendre des responsabilités et des initiatives.
D'accord. Et maintenant, la fille d'il y a 10 ans, elle va mieux ? Enfin, sa tumeur a été enlevée ?
Non, parce que c'est une tumeur femelle, donc elle revient. Donc on s'est aperçu que les 40 points de suture, on l'a défigurée. Je dirais pas pour rien, puisqu'on le savait pas. C'est qu'après, on s'est aperçu qu'elle avait une tumeur femelle. Donc maintenant, le troisième volet pour elle, c'est d'aller en Tunisie pour une chirurgie réparatrice. Ça veut dire qu'on va essayer de lui refaire un petit peu le visage, mais à savoir comment ça se passe, comment ça se positionne vis-à-vis de la tumeur qui revient. Là, c'est les spécialistes qui parleront.
Et si la fille, elle a pas assez d'argent pour faire l'opération, c'est en fait vous qui payez ?
On leur demande pas d'argent, ils en ont pas à la base. C'est nous qui nous mobilisons.
D'accord.
À travers des expositions, des informations, des affiches, un réseau, voilà, qui envoie des papiers. Ces papiers sont multipliés par le nombre de personnes qui les aura. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la toile d'araignée. Voilà. Et
d'accord.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Réseau solidaire, donc.
Tout à fait.
On va passer aux routes de l'Inde avec Yolande. Présentez-nous l'association.
L'association Les Routes de l'Inde organise des voyages solidaires à la base et aussi un programme de parrainage d'enfants dans un centre d'enfants défavorisés de la ville de Jaipur en Inde. Ce sont des enfants issus des rues et des bidonvilles.
Et vous comptez créer des maisons au lieu des bidonvilles ?
Non, c'est simplement du parrainage pour une 50aine d'enfants qui vivent dans un centre d'enfants défavorisés. Ce sont des enfants qui ont été recueillis dans la rue, qui en fait ont accepté déjà un premier contact dans une organisation. Et là, ensuite, ils font le choix soit de retourner à la rue, soit de continuer à vivre l'expérience de retrouver une vie normale. Et quand ils ont l'âge de faire le choix, bien sûr, parce que quand on arrive à récupérer des enfants de 5 ans, par exemple, là, on fait pas la demande de choix. Bon. Et ces enfants-là, après, partent dans un centre pour les garçons, les petits garçons, et un centre pour les filles et pour les petites filles. Et ils sont pris en charge au niveau soins, éducation, voilà. Mais l'association Les Routes de l'Inde, c'est aussi une association de voyages solidaires. Ça veut dire que dans ces voyages-là, on a une charte que l'on fait signer aux personnes qui participent au voyage et qui s'engagent à respecter le volet culturel et la culture des personnes. Et une partie de cet argent, dont 60 euros par voyage, par personne, est pris au compte de l'association pour financer justement le centre des enfants que nous accueillons. Voilà, il y a deux volets en fait hein, sur l'association. Les voyages solidaires et le volet de parrainage d'enfants. Donc on ne construit pas de centre, on ne fait que parrainer, apporter un peu de soutien financier.
Comment est-ce que vous trouvez ces fonds ?
Pardon ?
Comment est-ce que vous arrivez à trouver ces fonds ?
Pour les voyages, déjà on retire 60 euros par personne qui part en voyage avec nous, sachant que l'on fait à peu près 4 voyages dans l'année, à raison de 10-12 personnes par voyage. Et puis ensuite, on a bon des dons, mais des dons, il y en a très peu, et des parrains qui... prennent en charge des enfants, mais on a très peu de parrainage, de parrains, en fait, aussi.
D'accord. Et vous avez créé des sortes de villages pour les bidonvilles ?
Non. Il existe localement une association indienne qui s'occupe de tous ces programmes et du travail auprès des enfants de bidonville et du travail auprès des enfants de rue. Nous, on fait juste qu'apporter un soutien financier à ces programmes-là. C'est tout. Par contre, on ne crée rien du tout De par nous-mêmes.
Est-ce qu'il y a déjà des personnes dans la rue qui ont refusé de venir dans le centre ?
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des jeunes dans la rue ou des enfants dans la rue qui ont refusé parce que souvent, les enfants ou les personnes ne connaissent que ce lieu-là. Et vous savez, quand on connaît un endroit, on sait ce dont il s'agit, de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Et quand on propose quelque chose de différent, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et on a très peur aussi d'aller affronter ce qu'on ne connaît pas. Et souvent, des enfants refusent parce que ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Ils ont très peur de quitter ce qu'ils connaissent aussi. Dans la rue, il se crée aussi des groupes. Et ce groupe-là, c'est un lien, c'est quelque chose de très fort entre eux, ce qui se passe. Et quand on accepte de quitter ce groupe, on perd un peu ses repères. Si on va ailleurs, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans un autre lieu.
D'accord. Et que sont devenus les parents des enfants qui...
Alors, en Inde, il y a différentes choses. Bon, des parents, parfois, on ne sait pas du tout. Il y a des enfants qui sont partis parce que, des fois, il y a eu un coup de tête comme ça arrive dans beaucoup de pays, dans beaucoup de familles du monde, où l'enfant se dispute avec la famille, et puis sur le coup de colère, il prend un train, il s'en va. Seulement, il atterrit, l'Inde est très grande, elle fait 5 fois la France, il atterrit dans une ville en prenant son train, où il ne connaît pas la langue, c'est comme si tu atterrissais, dans un pays étranger, tu vas, par exemple, en Espagne, tu connais pas du tout l'espagnol, tu atterris là-bas, tu sais pas de quoi il retourne. Souvent, les personnes, parce que les enfants parlent des langues locales du village, on n'arrive plus à les comprendre. Les enfants eux-mêmes n'arrivent pas à se faire comprendre, alors il faut le temps de trouver des traducteurs, etc. Et quand ils sont dans la rue, ils sont en danger parce qu'ils sont récupérés par des groupes de personnes qui les prennent pour les faire travailler, pour les envoyer à la prostitution, pour les utiliser, tous ces enfants. Et après, il y a d'autres cas où les enfants sont partis parce que les parents sont trop violents, et d'autres cas où les parents les ont mis dehors parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir, et ils les ont fait partir. D'autres cas où les parents sont décédés, des cas multiples, et il n'empêche que ces enfants se retrouvent dans des villes, voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà eu des familles qui ont habité dans des bidonvilles ?
qui ont habité
dans des bidonvilles.
Oui.
Dans
les familles de ces enfants-là.
Oui.
Si certains ont habité dans des bidonvilles, oui, bien sûr. Oui, oui. Les bidonvilles, il y en a beaucoup, beaucoup en Inde. Hein. Énormément.
Et donc, votre association est qu'en Inde et pas ailleurs?
Oui, l'association, elle se trouve à Toulouse, en France, à côté de Toulouse, mais elle s'occupe de ces programmes-là, de ce village, de ce centre-là en Inde. Voilà.
C'est dans quel pays que vous prenez les enfants qui sont dans la rue?
C'est en Inde.
Et dans quelle ville?
Jaipur, qui est la capitale du Rajasthan en Inde.
D'accord. Et là, il y a combien de personnes qui habitent dans des bidonvilles en ce moment?
Alors là, c'est très difficile. Je sais qu'il y a à Jaipur, par exemple, dans la ville de Jaipur, qui est à peu près 3 ou 4 fois Toulouse, hein, un peu plus. 4 fois la ville de Toulouse. Il y a 300 bidonvilles. 300 bidonvilles.
J'entends d'accord.
Ce que ça veut dire. Et alors après, en question de nombre de personnes qui y vivent, je sais pas exactement, parce que tu sais, les enfants des bidonvilles sont, les gens des bidonvilles sont souvent nomades, ils passent un temps dans un lieu, ils vont dans un autre, et on peut pas faire du recensement de population.
D'accord. Et c'est vous qui créez les bidonvilles?
Non. Les bidonvilles se créent parce que socialement il n'y a pas de ressources et parce que les gens sont en difficulté. Et comme dans le monde entier, et comme ça arrive aussi ici en France aussi, hein, et il y en a quelques-uns, petits bidonvilles, en France.
Oui, ben moi je suis un peu stupéfait de ces deux garçons là qui posent des questions très pertinentes, qui se renseignent sur ce qui se passe à 10 000 ou 15 000 kilomètres de Toulouse. Et bravo. J'espère que ça va développer votre esprit de solidarité, comme l'a expliqué le monsieur tout à l'heure qui travaille en banlieue de Toulouse. Votre esprit de solidarité, c'est-à-dire regarder un petit peu autour de vous et dire qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces gens-là que je vois qui ont l'air malheureux. Alors bien sûr, il n'y a pas de, en principe, il y a beaucoup moins de malheurs ici à Colomiers et à Toulouse qu'en Inde ou qu'au Cambodge ou autre pays, mais il y a toujours à faire. Hein, il y a toujours plus malheureux que soi.
Une dernière chose, on va rappeler, enfin on va résumer vite fait les actions de vos différentes associations et surtout les contacts pour que les gens puissent venir vers vous et continuer à vous aider et à développer tout ce que vous êtes en train de faire.
Alors pour la DVO, le contact, d'abord si vous êtes sur place, sur la place du Val d'Aran, nous sommes ici également, donc venez nous voir. Sinon le plus simple, c'est peut-être de donner l'adresse email, c'est advo31@voila.fr. Je répète donc advo31@voila.fr. Et donc nous sommes à peu près 70 adhérents sur l'agglomération toulousaine, dont un certain nombre de Columérins, et c'est avec plaisir qu'on accueillera tous ceux qui veulent aider à ce partenariat avec l'Inde. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, parce que on a beaucoup parlé de l'aide que l'on apporte ici, de l'argent que l'on mobilise pour ces projets, pour ces gens qui en ont besoin, mais il faut aussi comprendre que eux aussi nous apportent quelque chose. C'est pas simplement dans un seul sens. C'est-à-dire que là, le projet que nous aidons en Inde, ce qu'on est en train de développer là-bas dans le cadre de l'agriculture biologique, dans le cadre du commerce équitable, dans le cadre du microfinancement avec la formation de groupes autonomes de gestion, de self-help group, c'est aussi, je pense, un modèle tout à fait intéressant pour nous, en particulier dans ces périodes où économiquement et socialement, on ne sait plus très bien où on va. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi insister sur cet aspect.
Est-ce que vous avez un site internet?
On n'a pas pour l'instant. On a un site internet qui est en cours de mise en place, mais qui ne fonctionne pas encore pour l'instant. Donc pour l'instant, la meilleure façon de nous interpeller, c'est donc l'email.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y aura sur le site internet?
Ben, ce qu'il y aura sur le site internet, alors il est en cours de fabrication, la présentation du projet que l'on aide, donc en Inde, encore une fois, Et puis, on expliquera qui on est et comment on peut contribuer à ce projet, comment on peut nous aider, notamment, comme on le disait tout à l'heure, par des actions de parrainage. Et comme on fait aussi beaucoup de ventes d'artisanat, ben, on mettra aussi sur le site internet les lieux où nous sommes pour ces ventes d'artisanat.
Et le site internet, ça sera donc advo31.fr
advo31.fr, c'est l'email. Le site internet, pour l'instant, je ne sais pas.
Pour les enfants du Mékong.
Alors, enfants du Mékong, bon, nous sommes une association nationale. Nous avons donc un site internet qui s'appelle enfantsdumekong.com. Enfants avec un S, Mékong, M-E-K-O-N-G, et enfants du Mékong, ça se tient. C'est un site où vous pourrez trouver des petites vidéos sur nos actions, toute notre organisation, comment rentrer, y rentrer, etc. Et comme je suppose vous êtes très férus à Internet, eh bien vous trouverez l'adresse mail des délégations locales, dont la mienne. Voilà.
Merci, on va passer donc aux routes de l'Inde, le contact.
Et pour les routes de l'Inde, nous avons un blog sur Internet. Et il suffit de taper lesroutesdelinde.overblog.com et on tombe dessus directement.
D'accord. Et il y a quoi sur le site?
Alors, il y a l'information sur les voyages que nous organisons, ce qui sont venus. Il y a beaucoup de photos de tout ce qui s'est passé. Et il y a les informations, le volet sur le parrainage et la charte.
Merci à tous. Je rappelle aussi du contact de Solidarité Jeunesse Internationale sur leur site solidarité-enfant-malade.net. Nous remercions bien évidemment les organisateurs de ce premier festival de la place Val d'Aran à Colomiers, en espérant que ça puisse encore se développer pour les années à suivre. Bon courage à vous tous, merci. Les associations, c'est vraiment super important et on vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de courage. Merci aux enfants des maisons communales.
Il n'y a pas de quoi.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de lien social ni de culture sans principe de solidarité. Merci à tous.
Et tu sais que les girafes, ben, ça n'existe pas.
Ah bon?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe. Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.